Bonjour, je m'appelle Noël et je suis avec Florent de la classe de Saint-Ange de Lully dans l'émission En sortant de l'école sur Radio Fribourg. Tu m'as l'air fatigué.
C'est normal, il y avait le vol de nuit hier soir.
J'ai pas entendu.
Quelle chance, avant 22h, impossible de fermer l'œil. Avec ça, je les déteste encore plus, ces avions des militaires. J'aimerais bien savoir 2-3 trucs sur le mur du son, les missiles.
Ça me tombe bien, car Lola et Tiffen ont rencontré un pilote. Oui, un pilote, Murphy, plus précisément. Ils l'ont demandé depuis quand il était passionné d'aviation.
Alors c'était il y a assez longtemps, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Et puis mon père était très passionné par l'aviation. Et il m'a un peu transmis son virus, et puis c'est de là que c'est parti. Après, avec le temps, j'ai commencé à regarder de plus en plus les avions. Je me suis mis au vol à voile quand j'étais adolescent, donc le planeur. Et puis, ça m'a motivé de plus en plus à devenir pilote militaire.
Et comment on devient pilote ?
Alors, pour devenir pilote militaire, c'est un processus assez long. Quand on a environ 16-17 ans, on s'inscrit et puis on dit qu'on est intéressé pour faire ça. Et puis après, il y a plusieurs phases de sélection, en fait. Et puis on peut dire qu'il y a d'abord une sélection qui dure peut-être 4 ans. Et après, il y a une formation qui dure peut-être 6 ans. On est jugé sur nos aptitudes psychologiques et puis aussi médicales. Et puis on a des interviews avec des psychologues. Et il y a aussi tout un côté où on nous fait voler un avion et puis on analyse si on fait ça bien ou pas.
Est-ce que vos proches ont peur quand vous partez en avion ?
C'est une bonne question. Je dirais pas qu'ils ont peur, mais ils ont un certain respect pour le métier quand même, parce qu'ils savent qu'il y a quelques risques. Mais je leur en parle beaucoup, je dis ce que je fais, et puis je crois que ça les rassure comme ça. Et ils savent aussi que je suis passionné par mon métier, et que je suis content en faisant ça.
Et est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de vol ?
Des problèmes de vol sérieux, non, j'en ai pas eu. Par contre, ce qu'on fait souvent... sur le FA-18 à Payerne, c'est donc l'avion de chasse. On s'entraîne dans le simulateur, parce qu'on a un simulateur sur place, et là, on peut s'entraîner à réagir pour les pannes qui sont possibles dans l'avion. Mais je dois dire que l'avion lui-même est très bien entretenu, c'est un avion sûr, et puis j'ai jamais eu jusqu'à maintenant des grandes pannes en vol.
Le parachute de secours vous a déjà été utile ?
Non, heureusement pas. Alors, le parachute de secours, il est toujours là. Dans l'avion, on a un siège éjectable et c'est un peu le dernier recours du pilote. S'il n'arrive plus à piloter son avion, il peut s'éjecter. Heureusement, moi, je n'ai jamais dû utiliser ce système.
Et est-ce que la préparation est longue avant de partir en vol ?
Oui, c'est assez long. Ça dépend aussi du vol. Il y a des vols avec différents niveaux de complexité, je dirais. En gros, il faut compter une demi-journée pour un vol. Donc ça, c'est avec la préparation, le vol et puis le débriefing. La préparation, je dirais qu'il y a deux phases. Il y a une première phase où on se prépare tout seul. On se met dans un coin tranquille. On se présente un peu mentalement le vol, comment ça va se passer. Après, il y a une deuxième phase où les pilotes qui sont ensemble dans le vol, parce qu'on vole toujours à plusieurs avions, en fait, on vole très rarement tout seul. Là, les pilotes vont discuter entre eux et on appelle ça le briefing. Et puis ça dure peut-être une heure, quelque chose comme ça. Et puis là, on va discuter des fréquences radio qu'on utilise, les procédures qu'on va utiliser, les exercices qu'on va faire en l'air, etc. En tout, la préparation, je dirais, avec ces deux phases, dure à peu près 2 heures.
Vous volez tous les jours ?
Oui, la plupart du temps, on peut dire que je vole en moyenne une fois par jour. Parfois, je vole 2 fois par jour, mais il y a aussi des fois où je vole pas. Donc, en moyenne, sur l'année, c'est à peu près une fois par jour, oui.
Déjà dépassé la frontière de la Suisse ?
Oui, dans deux différents scénarios, on va dire. Il y a parfois, quand on s'exerce en l'air, on s'exerce avec les Français ou bien les Allemands, et les Italiens aussi parfois. Et puis là, on a ce qu'on appelle des espaces aériens partagés. Et du coup, nous, on a le droit de voler en France, et les Français ont le droit de venir en Suisse aussi. Comme ça, on a un espace aérien plus grand, où on peut faire des plus grands exercices. Et là, c'est clair qu'on va passer la frontière. Et il y a d'autres exercices aussi où on va carrément à l'étranger et puis on part là-bas 2 semaines environ. Par exemple, chaque année, on part en Norvège pour s'entraîner au vol de nuit.
Quelles sont vos missions quand vous partez en avion ?
Je dirais qu'il y a 2 grandes missions pour les avions en Suisse. Il y a la protection de l'espace aérien. Donc ça, c'est si on a quasiment, entre guillemets, un ennemi qui veut venir dans l'espace aérien suisse, on doit pouvoir le défendre et on s'exerce aussi pour ça. L'autre mission qu'on a, c'est la police aérienne. Et puis ça, c'est la mission où on a des vrais engagements aussi pour l'instant. Donc, par exemple, il y a chaque année un grand meeting des politiciens à Davos qui s'appelle le WEF, le World Economic Forum. Pendant la journée, on survole la région et puis on contrôle qu'aucun autre avion ne rentre dans le secteur pour pouvoir protéger la conférence. Et on a aussi ce qu'on appelle maintenant la police aérienne 24 heures sur 24 qui arrive gentiment. Il y a deux pilotes qui sont toujours en stand-by pour pouvoir partir en l'espace de 15 minutes pour intercepter un avion s'il le faut.
Et les avions de chasse, ils ont des missiles ?
Oui. Dans les exercices de combat aérien qu'on fait entre guillemets entre FA-18 seulement, on n'a pas toujours des missiles sur l'avion parce qu'on n'en a pas besoin. Mais par contre, pour les missions de police aérienne, là, on a toujours des missiles sur l'avion. Oui.
Vous avez combien de missiles sur l'avion ?
Alors, ça dépend. La plupart du temps, c'est environ 3 missiles.
Vous pouvez nous décrire vos sensations quand vous volez ?
Alors oui, je pense que la chose à laquelle on pense le plus pour un avion de combat, c'est les accélérations. Alors par exemple, quand on décolle sur la piste, les accélérations sont assez fortes. C'est un peu équivalent à une voiture de course qui accélère, sauf que ça dure beaucoup plus longtemps encore, parce que ça continue à accélérer de plus en plus vite. Quand on monte dans notre secteur d'exercice, entre guillemets, souvent c'est au-dessus des Alpes. Je pense que vous pouvez vous imaginer un grand 8, par exemple, et ça avance peut-être à 80 km/h, ça fait des loopings qui sont peut-être 30 mètres de haut, quelque chose comme ça. En avion de chasse, ça va beaucoup plus vite, donc ça va peut-être à 1000 km/h, et puis les loopings, il va faire peut-être 2 ou 3 km de haut son looping, donc c'est des beaucoup plus grandes dimensions. Et puis du coup, le pilote, il subit des forces dans son siège, il est appuyé dans son siège à chaque fois qu'il fait des virages. Et ça a deux effets sur le pilote. Le premier effet, c'est que ça a tendance à faire descendre le sang qu'il a dans le cerveau, dans les jambes, à cause des accélérations. Et pour contrer ça, le pilote doit serrer ses muscles, et il a aussi des pantalons anti-jet, on appelle ça. Et ça serre les jambes pour faire remonter le sang en direction du cerveau. Et l'autre effet que ça fait, c'est, il faut vous imaginer, on appelle ça des accélérations en G, donc 7G par exemple. C'est comme si la tête du pilote, au lieu de peser 10 kilos, il en pèse 60 ou 70 sur sa nuque. Donc ça a pas mal d'effets sur le corps.
C'est quoi la vitesse maximale de ton avion ?
Les avions de chasse suisses, donc les FA-18, la vitesse maximale, c'est, on compte ça en Mach, donc c'est en vitesse du son. Et puis on arrive à aller à peu près à 1,7 fois la vitesse du son. Et puis ça représente à peu près 2000 km/h.
Un avion peut dépasser le mur du son. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui. Ouais, je vais commencer un peu par le passé. Alors, dans les années 40, ils avaient les premiers avions qui dépassaient le mur du son. Et là, les ingénieurs, ils ont remarqué qu'il y avait des phénomènes bizarres qui se passaient au niveau aérodynamique. Et puis, les avions, ils n'étaient pas toujours contrôlables en passant la vitesse du son. Parce qu'il y avait des phénomènes très forts sur les commandes de vol. Et on ne comprenait pas encore tout à fait. Maintenant, on a très bien maîtrisé ces effets. Et puis le FA-18 suisse, ou le FA-18 en général, quand il passe le mur du son, les ordinateurs qui sont dans l'avion compensent tous les effets aérodynamiques qui se passent. Et en fait, le pilote, il ne remarque plus rien quasiment. Donc souvent, ça peut arriver à un pilote, s'il laisse trop les gaz, de passer le mur du son sans s'en rendre compte.
Vous l'avez déjà fait ?
Alors oui, j'ai déjà passé le mur du son, surtout pour la police aérienne, par exemple, quand on va intercepter un avion qui est à l'autre bout de la Suisse, pour qu'on puisse y être le plus rapidement possible. Et ça, quand on décolle depuis Payerne, si un avion est au Tessin, ça prend à peu près 5 minutes, donc c'est vraiment très rapide pour y aller. Mais comme j'ai dit, on ne remarque pas grand-chose dans l'avion, parce que l'ordinateur, il compense pour tout. Par contre, ce qu'il faut savoir pour un pilote, c'est quand il passe le mur du son, ça fait une onde de choc autour de l'avion. Et puis ça fait beaucoup de bruit. Et puis le risque, c'est que ça peut au sol casser des vitres. Ou bien dans les montagnes, en hiver, ça peut déclencher des avalanches. Donc souvent, les pilotes, on n'a pas le droit de passer le mur du son en hiver pour éviter de déclencher des avalanches.
Alors Mathieu, vous pensez faire ce métier toute votre vie ou vous avez d'autres projets ?
Alors malheureusement, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie parce qu'il y a quand même une limite pour les pilotes de chasse. En général, les pilotes arrêtent de piloter aux environs de 40 ans. Alors là, il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Ils peuvent, par exemple, devenir pilotes de ligne et puis continuer là-dedans. Ou bien ils peuvent rester à l'armée, mais ils peuvent plutôt occuper un bureau.
C'est un tôt 40 ans pour arrêter. Et en plus, il est vraiment passionné par son travail. La preuve, il en a tellement raconté lors de son interview. J'ai appris plein de choses.
Ouais, mais tu as entendu. C'est dur physiquement et mentalement aussi.
Est-ce qu'il en va de même pour le préfet, un âge limite?
Alors là, tu m'en poses des questions.
Il faudra écouter l'interview de la semaine prochaine. Émile, Sophia et Alice vont partir à la rencontre de Nicolas Kischer.